On anticipe réellement qu'on va être capable de le retirer le 14.
Bonsoir. Restera pas le masque dans les lieux publics du Québec? On s'attendait à une réponse aujourd'hui de la part de la santé publique qui avait convoqué les médias à une conférence de presse. On a plutôt eu droit à un autre épisode de tergiversation signé Dr. Luc Boileau, le directeur national de santé publique par intérim. Le Dr. Boileau n'a pas voulu confirmer si le port du couvre-visage demeurait obligatoire au-delà du 14 mai dans tous les lieux publics de la province. Je retrouve Simon Bourassa à Québec. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Noémie.
Donc, c'est partie remise là, pour une décision sur le port du masque.
Oui, exactement. Bien que, selon le Dr Boileau, la sixième vague soit terminée, ou du moins, on ait atteint le pic de la sixième vague, la pandémie qui n'est pas derrière nous, on nous a donné des données, là, la contagiosité qui a baissé de manière significative dans la population générale, notamment chez les personnes âgées, les élèves du primaire et du secondaire, et aussi chez les travailleurs de la santé. Donc, tout porte à croire qu'on va lever cette consigne du port du masque le 14 mai, mais la santé publique là, va donner ses recommandations au gouvernement lundi prochain. On va prendre ça en délibéré, donc on se laisse encore quelques jours. Le gouvernement qui pourra annoncer sa décision soit mardi ou mercredi, mais si les données ou du moins les projections s'avèrent, effectivement, ça ira au 14 mai. Québec, le Québec est le seul endroit, d'ailleurs, au Canada où on a encore le port du masque, sauf à l'île du Prince-Édouard, qui va retirer sa consigne la semaine prochaine, eux, le 6 mai. Donc, la sixième vague, qui est assez particulière dans sa fin aussi, comme nous l'explique le Dr Boileau, dans une gestuelle qui nous rappelle, d'ailleurs, celle du Dr Arruda.
Mais les données restent... on n'est pas dans une descente comme ça. On est plus sur un plateau qui descend. Alors, c'est une configuration différente par rapport à quelques autres vagues, et notamment l'Omicron, la vague du mois de janvier, elle a descendu plus rapidement.
Puis Simon, il a aussi été question de la réinfection. Il y a de plus en plus de gens qui contractent le virus deux fois dans un intervalle rapproché.
Oui, je vous en parlais il y a quelques semaines, mais là, on a maintenant des données là-dessus. On dit que 5 à 10 % des cas déclarés présentement sont des réinfections. Et alors qu'on disait initialement qu'une personne qui fait la maladie est immunisée pour quoi, 90 jours, 3 mois, mais maintenant, on parle plutôt de 2 mois pour cette immunité après avoir contracté le virus. Puis ça, bien, c'est à cause du fameux variant BA2.
Merci, Simon.
Au revoir.
On poursuit la discussion avec Roxane Borges da Silva. Elle est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonsoir, Mme Borges da Silva.
Bonsoir.
Donc, le Dr Luc Boileau, en conférence de presse, a cité les données de votre groupe de recherche, le Cyrano, en disant qu'elles sont préoccupantes, mais lui n'est toujours pas capable là, de confirmer si on devra garder le masque ou non dans 2 semaines. Vous, quelle est votre lecture de la situation?
Mais clairement, les données en fait de cette semaine qui vont paraître demain nous montrent que on a à peu près on est stable, disons, dans le nombre de cas, ou une très légère baisse, mais qui n'est pas statistiquement significative. Donc, on est encore autour de 40 000 cas par jour, en fait, entre 25 et 50 000 cas, suivant l'estimateur. Et à ce niveau-là, quand on a, 40 000 cas par jour, on ne peut pas se permettre d'enlever le masque parce qu'on met à risque beaucoup de personnes dans la population qui sont plus vulnérables ou qui ne sont pas vaccinées. Le masque est une mesure qui est très, très efficace, peu contraignante, bien ancrée dans les pratiques sociales. Donc, c'est bien important de le garder tant qu'on n'a pas une très forte baisse du nombre de cas.
Qui paiera le prix le plus lourd ou qui paierait le prix le plus lourd si on devait retirer le masque à partir du 15 mai dans les lieux publics au Québec?
Mais si on a un tel niveau de circulation du virus de transmission communautaire et qu'on enlève le masque, alors beaucoup de personnes vont payer le prix. Non seulement les personnes qui sont immunosupprimées plus vulnérables au virus, mais également, en fait, quoique ces personnes-là pourraient se protéger en portant le masque et en continuant de le porter, mais c'est surtout, en fait, toutes les contaminations qui vont augmenter et qui vont engorger le système de soins. Et donc, ce sont nos patients délestés qui attendent depuis trop longtemps déjà des chirurgies ou des examens pour des diagnostics qui vont attendre encore plus. Donc, c'est important de ne pas relâcher cette mesure pour l'instant tant qu'on a autant de cas actuellement.
Avez-vous en tête un chiffre, un seuil, un indicateur à partir duquel il serait acceptable à vos yeux de la retirer l'obligation du masque?
Mais plutôt qu'un indicateur, en fait, j'aurais plutôt envie de dire que j'ai une image en fait dans nos graphes et nos courbes qu'on sort toutes les semaines, qui montrerait une pente très décroissante, très fortement décroissante du nombre de cas par rapport à la semaine précédente. Et c'est ça qui va me rassurer pour des questions de santé publique qu'on pourrait, on est rendu à un stade où on peut enlever le masque.
Donc, la baisse, à vos yeux, est encore beaucoup trop douce. Le Québec est le seul endroit au Canada où l'obligation de porter le masque n'a pas été annoncée. C'est-à-dire que le retrait de cette obligation-là n'a pas encore été annoncé. Combien de temps on peut se permettre de nager à contre-courant de nos voisins immédiats?
Mais c'est sûr qu'on, c'est difficile de se comparer aux autres provinces. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été beaucoup plus touchés, il semble, que les autres provinces par le BA1, BA2. On a aussi un système de soins qui est peut-être beaucoup plus vulnérable avec une plus grande pénurie de ressources humaines ou d'absentéisme au travail des travailleurs de la santé. Et puis peut-être aussi un problème, un enjeu au niveau de la vaccination. Il faudrait vraiment déployer des campagnes de communication pour améliorer la vaccination en troisième et quatrième dose. Et c'est ces éléments-là qui vont nous permettre, avec l'été qui arrive, où on va vivre beaucoup plus en extérieur, qui vont nous permettre de relâcher cette mesure du masque.
Merci beaucoup, Mme Borges da Silva, pour cet éclairage.
Je vous en prie.
Plus de 800 personnes sont en attente d'un don d'organes au Québec en ce moment. C'est une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente et c'est la plus forte hausse en 10 ans. On souligne d'ailleurs jusqu'à samedi la Semaine nationale de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus. On en discute avec Camille Lorrain-Desjardins. Bonsoir, Camille.
Bonsoir, Noémie.
Donc, la pandémie a eu des répercussions assez importantes sur les gens qui attendent une greffe.
Effectivement, puis sur plusieurs fronts, en fait. Parce que, bien, premièrement, on a été confinés, il y a eu moins d'accidents de la route, donc moins de donneurs potentiels. Mais aussi, on le sait, avec le manque de personnel dans les hôpitaux, il y a eu des chirurgies qui n'ont pas eu lieu aussi. Donc, il y a eu plusieurs impacts de plusieurs façons. Là, selon Transplant Québec, le pire est passé, là, c'est-à-dire que par rapport à 2020, on voit que ça reprend. En 2021, d'ailleurs, il y a eu 409 personnes transplantées au Québec grâce à 144 donneurs. Donc, on peut peut-être écouter Mme Micheline Cyr-Astelin. Elle est la directrice générale de la Maison des greffés Linacyr et c'est la seule maison en Amérique du Nord là, qui accueille comme ça les personnes en attente d'une greffe.
Le fait aussi que l'équipe médicale à l'hôpital était vraiment réduite. Il y a des candidats qui étaient peut-être potentiels pour donner une greffe puis qui n'ont pas pu être soumis à des examens pour voir s'ils l'étaient. Donc, il y a des greffes quand même qui se sont perdues. Il y a la greffe de rein qui a été complètement arrêtée aussi pendant une période de temps à cause de la pandémie pour manque de personnel. Oui, on a encore des vagues de COVID, mais quand même, on voit que ça repart. Moi, les greffes, il y en a. Mais pendant cette période-là, ça a été très, très difficile pour les résidents qui attendaient leur greffe à la maison.
Et cette maison en question, elle est d'une grande importance pour ceux qui ont besoin d'une greffe.
Effectivement, parce qu'il faut comprendre que toutes les transplantations se font à Montréal. Donc, pour toutes les personnes qui habitent en région, quand elles sont rendues, disons, en haut de la liste d'attente puis qu'elles savent que leur tour s'en vient, bien, elles doivent être dans la région de Montréal parce que quand elles reçoivent le fameux appel, bien, elles doivent être à 2 heures de route maximum, là, parce qu'on sait que ça va très vite pendant ce temps-là. Et donc, cette maison-là, elle accueille les gens en attendant comme ça, mais aussi après pour les rendez-vous de suivi qui sont très rapprochés après les greffes. J'ai parlé à Patrice Dionne, c'est un homme de la région de Québec. Lui, en 2006, il a reçu la première double greffe cœur et foie. On lui avait dit qu'il lui restait quelques mois à vivre seulement là, à l'époque. Et lui, il a passé un an à la maison des greffés Linacyr. Je vous propose de l'écouter.
Ça a été ma deuxième famille. Parce que mes enfants étaient encore aux études. Ça prend la maman pour s'en occuper. Je suis tout seul là-bas. Fait que seul dans un appartement, t'as beau avoir la chance de te dire que tu vas revivre, mais c'est pas la même chose que d'être entouré de tous ces gens-là. Et c'est une attente constante. Là. On est tout le temps sur le qui-vive. Dans le temps, c'était des pagettes. Fait que ton pagette, là, tu le vois jour et nuit, là. Tu le mets à côté de ta table de nuit, puis t'attends la nuit qui sonne. Là, écoutez, c'est une attente. On attend la vie.
Merci, Camille.
Merci.
Santé Canada élimine la barrière qui empêche les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes dans les 3 mois précédents de donner du sang. Ottawa a annoncé avoir acquiescé à la demande de la Société canadienne du sang. Les changements seront mis en place d'ici le 30 septembre. Un nouveau questionnaire de sélection sera élaboré. Au niveau provincial, chez Emma Québec, on espère mettre en place rapidement cet assouplissement.
J'espère que Emma Québec va pouvoir faire autant le plus rapidement possible, parce qu'effectivement, ce ne serait pas juste pour que les Canadiens partout au pays, sauf au Québec, voient une fin à cette discrimination. Mais ceux au Québec doivent attendre encore un peu plus longtemps. Mais c'est à Emma Québec de faire les déterminations. C'est une agence indépendante.
En ce 64e jour de la guerre en Ukraine, le cœur de la capitale Kiev a été attaqué. C'est la première fois depuis la mi-avril que le centre-ville est bombardé. Sabrina Rivet se joint à nous pour faire le point. Bonsoir.
Bonsoir, Noémie.
Et cette attaque survient alors que le secrétaire général de l'ONU a visité Kiev aujourd'hui pour la première fois depuis le début du conflit.
Et vraiment, les réactions viennent de toutes parts relativement à ces bombardements qui ont lieu au cours des dernières heures. Et d'ailleurs, Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, a dit qu'il était maintenant en sécurité parce qu'il se trouve du côté de Kiev. Mais il s'est dit également choqué de ces attaques. Vous les voyez, d'ailleurs, ces images, parce qu'il y a eu au moins 2 explosions qui ont été entendues à Kiev en fin de journée. Après, justement, la conférence de presse de l'ONU, on parle de 2 bâtiments qui étaient en flammes. On ne détient pas encore nécessairement un bilan très clair, là, au niveau des blessés, mais selon ce que j'ai regardé avant d'arriver en onde, on parle peut-être d'une dizaine de personnes qui auraient été blessées. Volodymyr Zelensky également, qui a réagi par le biais d'une vidéo. Alors, il a dit que ces bombardements visaient à humilier les Nations unies, selon lui. Et là, quand même, aujourd'hui, comme je le précisais, Antonio Guterres, qui était du côté de Kiev, il a visité également Boutcha, Borodianka et Irpin. Et voici d'ailleurs une réflexion qu'il a poussée aujourd'hui.
And this is something everybody should remember everywhere in the world. Wherever there is a war, the highest price is paid by civilians.
Et au pays, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a témoigné devant un comité du Sénat au sujet de la guerre en Ukraine.
Oui, en fait, elle a appuyé le projet de loi d'une sénatrice indépendante qui vise à confisquer les avoirs saisis aux Russes. Et tout de suite, d'ailleurs, on peut aller écouter ce qu'elle pense de toutes les sanctions qui ont été réalisées par le Canada depuis le début de la guerre.
Nous réclamons le passage rapide et sans entrave de l'aide humanitaire aux civils, ainsi que la protection des civils et des infrastructures civiles. Nous sommes profondément préoccupés par l'aggravation de la crise humanitaire en Ukraine et le nombre croissant des réfugiés dans les pays voisins et les répercussions mondiales sur la sécurité alimentaire et d'autres besoins humanitaires causés par cette invasion injustifiable.
Également, pour ce qui est de l'aide à l'Ukraine, il y a Joe Biden, le président des États-Unis, qui a annoncé encore une fois allonger aujourd'hui 33 milliards de dollars pour venir en aide à l'Ukraine. On peut aller l'écouter.
The cost of this fight, it's not cheap. But caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen.
Merci, Sabrina.
Ça fait plaisir.
La journaliste québécoise Anne-Marie Provost est en Ukraine depuis quelques jours. On la retrouve ce soir à Kiev. Bonsoir, Anne-Marie.
Bonsoir, Noémie. Comment ça va?
Bien, ça va bien. Il y a eu des frappes tout près de l'endroit où tu te trouves à Kiev il y a quelques heures, au moment même où le secrétaire général des Nations unies est en visite à Kiev. Raconte-nous ce que tu as vu, entendu.
Ben, j'étais en train de travailler dans ma cuisine, puis soudainement, j'ai entendu une première explosion. Il devait être autour de 8h15 le soir. J'ai levé la tête, je me suis dit « Ah, ça ressemble à une explosion ». Puis soudainement, peu de temps après, une deuxième explosion. Donc, je suis allée sur Twitter. J'ai des amis sur place aussi en Ukraine, à Kiev. Mon fixeur qui m'a écrit, qui m'a dit « Ah, tu as entendu les explosions ». Puis là, c'est là qu'on a vu que 2 missiles avaient frappé en plein centre de Kiev. Et ça, c'était pas arrivé depuis la mi-avril. Donc, évidemment, ça a ébranlé là, tout le monde là, sur place.
Oui, bien, tout à fait. Donc, les forces ukrainiennes sont en contrôle de Kiev, la capitale, mais il y a des frappes quand même qui risquent qui tombent régulièrement sur la ville. C'est quoi l'état d'esprit des gens à qui tu as pu parler depuis que tu es arrivé?
Bien, les gens se sentent... je pense que les gens, en fait, ont appris à vivre avec un risque. Parce que les gens dans les rues, aujourd'hui, hier, je me suis beaucoup promenée, Les gens dans les rues sont dans un bon état d'esprit. Il n'y a pas énormément de tension. Les gens peuvent aller s'acheter des cafés, aller au restaurant. Il y a quelques bars qui ont ouvert. Aujourd'hui, il faisait beau, les gens se promenaient. Il y avait des musiciens dans certaines parties de la ville. Mais en même temps, on est consciente que le danger existe. C'est juste qu'on dirait que les gens ont appris à vivre avec. Puis, on sent aussi énormément de confiance envers l'armée ukrainienne. Comme les Russes sont partis des alentours de la ville, les gens se sont dit « bon, bien, l'armée peut nous protéger efficacement. On se sent en sécurité dans notre ville. On se sent en sécurité pour marcher. »
Wow!
Ça serait ça, oui.
C'est particulier. Puis, ce que tu as constaté aussi, parce que tu es arrivé en train depuis la Pologne et tu as vu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens en ce moment qui avaient fui le pays et qui rentrent à la maison. Qu'est-ce qui les motive à rentrer alors que, pas plus tard que lundi, il y a eu 5 attaques sur des gares ferroviaires par la Russie dans l'ouest et le centre du pays, justement?
Bien, c'est un peu comme je disais, les gens apprennent tranquillement à vivre avec une espèce d'état de guerre dans leur pays. Puis aussi l'idée que c'est plus sécuritaire de retourner dans l'ouest du pays parce que, bon, l'armée russe a quitté les alentours de Kiev. Maintenant, les opérations militaires sont concentrées dans le sud du pays, dans l'est du pays. Donc, les gens se disent, bon, ben c'est plus sécuritaire de revenir dans mon village de l'ouest de l'Ukraine. C'est plus sécuritaire de revenir à Kiev. Ça fait quand même quelques mois que les gens ont fui. Ils s'ennuient de leur mari, qui ont dû rester sur place parce qu'ils ne sont pas autorisés à quitter le pays. Donc, vraiment, il y a toutes sortes de raisons. Puis ça mène à des débats, à des discussions déchirantes. Est-ce que c'est sécuritaire de revenir? Est-ce que je suis mieux de rester à l'étranger? Mais les gens reviennent pour toutes sortes de raisons. Dans le train, j'ai notamment rencontré une femme qui était en Allemagne depuis 2 mois, mais son fils de 28 ans a décidé de s'enrôler dans l'armée. C'est un médecin. Puis, elle était tellement inquiète, elle a décidé de revenir au pays juste dans l'espoir de pouvoir peut-être le voir une dernière fois avant qu'il soit déployé au front. Donc, c'est toutes sortes d'histoires personnelles comme ça qui incitent les gens là, à revenir.
Ben oui, puis c'est dramatique. Dans les prochains jours, tu vas te rendre dans les villes autour de Kiev qui ont été libérées par les forces russes et où des atrocités ont été commises, Boutcha notamment. Qu'est-ce que tu vas aller voir là-bas? Qu'est-ce que tu veux aller observer?
Bien, d'abord, il y a quand même beaucoup d'aide humanitaire dans ces coins-là, dans ces villes-là, à Boutcha, à Irpin. Il y a eu beaucoup de destruction. Les commerces ne sont pas encore complètement rouverts. Ça peut être compliqué d'avoir de l'eau, compliqué d'avoir de la nourriture. Donc, il y a énormément de volontaires qui sont en train d'aider les gens. Il y a des personnes âgées qui vivent dans des refuges présentement parce que leur maison ou leur appartement a été complètement détruit. Donc, je vous dirais, dans les derniers jours, il y a eu énormément d'opérations de nettoyage qui se sont faites juste pour nettoyer les rues des tanks, des obus, tout ça. Et là, les gens reviennent en masse à Boutcha la semaine dernière. Il y avait une file de voitures sur quand même plusieurs kilomètres.
Donc, les gens rentrent aussi dans ces lieux-là qui ont été dévastés. Merci beaucoup, Anne-Marie Provost, pour ce compte-rendu. On se reparle bientôt.
Ça me fait plaisir. Bye.
Les Canadiens de Montréal concluent leur saison de misère demain soir au Centre Bell. On fait le bilan de cette année à oublier avec nos collaborateurs Andréanne Barbeau et Mika Guerrier. Depuis le début de la pandémie, on assiste à une recrudescence des commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Des politiciens ont été la cible de menaces, mais aussi des journalistes. Et c'est ce que révèle une étude sur le sujet qui a été dévoilée aujourd'hui. Anaïs El-Boujdani a assisté au point de presse. Bonsoir, Anaïs.
Bonsoir, Noémie.
Donc, la moitié des journalistes, animateurs et chroniqueurs au Québec disent avoir été victimes d'intimidation et de harcèlement en ligne.
Et 14 % des répondants disent éviter traiter de sujets controversés par peur d'être harcelés en ligne. Et ça, bien, ça a des conséquences énormes sur la liberté de presse. C'est ce que disent les auteurs de cette étude, qui est la première étude du genre au Québec. Et là, je vais vous lire des extraits de témoignages qui ont servi à l'étude pour comprendre un peu là, ce dont quoi on parle. Premier témoignage, j'en aurais long à dire ou à raconter. Menace de mort, menace de suicide, faux profil avec ma photo sur des sites de rencontres. Autre témoignage, les menaces étaient constantes pendant 2-3 jours jusqu'à ce qu'un utilisateur suggère de tirer sur le messager. On apprend aujourd'hui que 7 % des 264 journalistes sondés ont reçu des menaces de mort. Ce sont les hommes principalement qui cyberharcèlent dans 90 % des cas. Je vous laisse entendre un des chercheurs de cette étude qui est très inquiet de la situation.
Même le cyberharcèlement, ce qui est un peu inquiétant, c'est que ce qu'on a remarqué avec justement les derniers événements qu'il y a eu à Ottawa, c'est que le cyberharcèlement s'est transposé après en personne. Donc, des journalistes qui se font attaquer physiquement, ça, c'est préoccupant aussi, là.
Et Anaïs, comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation?
Bien, les employeurs doivent en faire plus. Dans 70 % des cas, on dit qu'il n'y a pas de mesures en place pour prévenir le harcèlement en ligne. Et là, avec l'acquisition du réseau social Twitter, dont on a beaucoup parlé là, dernièrement, puis qui est un outil important de communication, les questions de liberté d'expression et celles de modération se posent. Je vous laisse entendre la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.
Les réseaux sociaux agissent peu ou pas, justement, pour réguler. Il faut se rappeler, les réseaux sociaux, ce sont des géants qui ont de l'argent. Ils ont plus d'argent que la majorité des États sur la planète. Ils ont les capacités de réguler les réseaux sociaux parce que ce sont des gestes criminels. C'est pas parce qu'on est derrière un clavier qu'il y a une impunité.
Il y a un projet de loi qui est sur la table, qui est en formation. J'en ai discuté d'ailleurs avec le ministère du Patrimoine sur ce prochain dépôt, qui va regarder les contenus haineux en ligne. Moi, je souhaite que le gouvernement fédéral s'attarde à la position des journalistes à cet égard.
Et en terminant, là, il y a aussi des conséquences à tout ça. Dans 24 % des cas, les gens disent perdre confiance en leur travail. Et dans 23 % des cas, bien, il y a une perte de productivité.
Merci beaucoup, Anaïs.
Merci.
Des passagers du transporteur Sunwing qui ont fait la fête pendant un vol entre Montréal et Cancun à la fin décembre ont écopé d'amendes totalisant 59 500 $. Selon Transport Canada, 42 amendes ont été émises contre 37 des 154 passagers. De celles-ci, 18 étaient liées à la non-conformité du statut vaccinal et 24 concernaient le non-respect du port du masque. Les images et les vidéos des fêteurs ont soulevé l'indignation en pleine vague causée par le variant Omicron. Le Canadien de Montréal disputera son dernier match de la saison demain soir au Centre Bell contre les Panthers de la Floride, mais il est déjà acquis que le tricolore finira au dernier rang de la Ligue nationale de hockey, dans la cave, comme on dit. C'est seulement la quatrième fois de son histoire que ça lui arrive, puis la dernière fois, ça fait 82 ans. Donc, on va tenter quand même de se redonner espoir avec nos invités, Andréanne Barbeau et Mickaël Guerrier.
C'est la pression.
Oui, c'est ça, c'est pas une tâche facile,
à tous les deux.
Ça.
Ben non, oui, c'est ça. Mais revenons d'abord sur cette saison, on va se le dire, catastrophique. Andréanne, les données ne mentent pas.
C'est digne d'un téléroman. C'est vraiment une saison qui bat tous les records. De médiocrité, malheureusement. Ça fait seulement 6 fois depuis l'an 2000 qu'une équipe qui est finaliste de la Coupe Stanley ne fait pas les séries la saison suivante. Et jamais dans l'histoire du tricolore, une équipe avait encaissé plus de 40 défaites en temps réglementaire. On est rendu à 49. Alors, espérons qu'on évitera le chiffre magique de 50 demain face aux Panthers de la Floride, qui représentent quand même une des puissances de la LNH.
Bien, à qui on prédit peut-être même la Coupe Stanley.
Exact.
Mais que... Bon, l'équipe, il faut se l'admettre, il faut l'accepter, elle est en reconstruction et ça se fera pas du jour au lendemain.
Peu importe le nom qu'on utilise, parce que Jeff Gorton et surtout Kent Hughes n'aiment pas utiliser le terme reconstruction. On dit peu importe le mot qu'on utilise, mais il va falloir rebâtir ce club-là. Le problème, c'est qu'on sait qu'on atteint le fond du baril, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va remonter. Et le danger pour le Canadien, c'est de devenir une risée. Parce que moi, j'ai grandi dans les années 90 où les Nordiques étaient au fond du classement et on disait à la blague, faut prendre le classement dans le journal, tourner à l'envers pour voir les Nordiques au premier rang. Et les Nordiques ont eu le premier choix 3 années de suite, en 90, 91, 92, Matt Sundin, Owen Nolan, Eric Lindros. Ça a permis à l'équipe de se reconstruire, de gagner la Coupe cette année. Le problème, c'est que ça s'est fait à l'extérieur de Québec. Donc,
ouais,
le Canadien n'est pas en danger.
Avait déménagé au Colorado.
Il n'y a pas de danger pour le Canadien de déménager, mais il y a un danger de rester dans le bas du classement pendant plusieurs années.
Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au cours de la saison qui a été déterminant pour faire plonger cette équipe-là où les dés étaient joués d'avance puis il n'y avait aucun espoir?
Bien, déjà, l'été dernier, on savait que Shea Weber allait probablement rater toute la saison. Ça s'est confirmé. Déjà, l'été dernier, on savait que Carey Price se faisait opérer. On avait des doutes qu'il puisse commencer la saison. Et là, évidemment, bien, il y a eu toute la saga l'entourant, oui, son genou, mais aussi le fait qu'il ait adhéré au programme d'aide des joueurs. Après ça, bien, Les blessures, la COVID, ça, toutes les équipes l'ont vécu, mais c'est la réalité de la LNH, mais à différents niveaux, disons. Et le Canadien n'a pas été épargné là-dedans. Et puis après ça, bien évidemment, Dominique Ducharme qui a été remplacé, c'est toujours la solution facile dans le sport professionnel quand ça ne va pas avec une équipe de remplacer l'entraîneur. On a presque cru que ça pouvait, que Martin Saint-Louis pouvait être la solution miracle.
Mais, il a eu ses bons moments.
Oui, mais
quand
ça, mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est comme ça à chaque fois qu'un entraîneur se fait congédier dans la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il y a un chiffre qui dit que les premiers 10 matchs, en général, se passent bien pour le nouvel entraîneur. Mais on l'a vu, 9 défaites de suite, presque 10, ça aurait été un record dans l'histoire du Canadien de Montréal. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Puis, il faut dire que le problème du Canadien de Montréal n'est pas derrière le banc. Il est sur la glace. Il y a un manque de talent dans cette équipe-là. On a perdu 7 joueurs depuis la finale de la Coupe Stanley l'an dernier et surtout des joueurs clés. Andréane les a nommés. On ne peut pas remplacer notre capitaine, notre pilier, le meilleur joueur de l'équipe, Carey Price, notre centre numéro 1 en Philippe Dano. On a beau dire ce qu'on veut contre Philippe Dano, c'était le meilleur joueur de centre et probablement le meilleur attaquant du Canadien de Montréal depuis quelques années, du moins durant les séries éliminatoires l'an dernier.
Est-ce qu'il y a quelque chose de positif à retenir de cette saison-ci,
Oui, je pense que oui. Oui, il y a de l'espoir quand on regarde les jeunes quand même du tricolore. Cole Caulfield, on a eu des doutes en début de saison, rappelez-vous. Faut qu'il y ait à Laval, non, faut le garder en haut, non, ça va, non, ça... Là, on a vu là, son plein potentiel, là, il l'a confirmé. Et on a surtout vu la connexion avec Nick Suzuki, on a vu ce que ça pourrait donner. Donc, c'est un début de piste de solution, mais il faudra plus que ces deux jeunes joueurs-là pour relancer l'équipe. Mais c'est quand même un début, ce sont deux talents, je dirais pas exceptionnels, mais deux très beaux talents sur lesquels le Canadien pourra se positionner. On verra pour la suite comment on pourra entourer ces jeunes-là.
Bon, parlant de suite, le Canadien est certain, a les meilleures chances. C'est pas certain, mais a les meilleures chances d'avoir le premier choix au repêchage.
Environ 18 % de chance avec la loterie. Parce que même si on termine dernier, on a changé ça il y a plusieurs années dans la Ligue nationale pour éviter que les équipes fassent exprès justement de perdre pour repêcher un joueur. Le problème pour le Canadien, c'est cette pression aussi d'avoir le premier choix. Honnêtement, si on me demande mon avis, je dis que ça serait presque une bénédiction que le Canadien ne remporte pas cette loterie. Pourquoi? Parce que c'est un repêchage qu'on dit un peu mitigé. Oui, il y a des bons joueurs, mais est-ce qu'il y a un joueur exceptionnel à la Sidney Crosby, à la Connor McDavid? Pas nécessairement. Et en regardant les repêchages des dernières années, on se rend compte que de temps en temps, lorsqu'il y a des repêchages un peu plus faibles, parfois le troisième choix est meilleur que le premier. Je prends l'exemple de Jonathan Huberdeau en 2011, qui a été repêché troisième par la Floride. On voit où est-ce qu'il est parmi l'élite de la Ligue nationale cette année, alors que Ryan Nugent-Hopkins est un très bon joueur, oui, mais ce n'est pas le meilleur joueur de sa cuvée. Même chose également pour Leon Draisaitl en 2014. Ça a été Aaron Ekblad, qui joue également en Floride. Excellent défenseur quand même, mais Leon Draisaitl, c'est peut-être un des deux, trois meilleurs joueurs de la Ligue nationale également offensivement. Donc, ça dépend des besoins. Ça dépend où est-ce qu'on se retrouve au repêchage pour l'avenir.
Et au-delà du repêchage, c'est aussi le développement des joueurs. Mm-hmm. Parce que ça aussi, ça a manqué dans les dernières années aux Canadiens. Il y a eu des lacunes au niveau du recrutement, mais aussi au niveau du développement des jeunes joueurs.
Il s'agit pas de les recruter, avec le club... c'est ça.
C'est ça, et le lien avec le club école doit être meilleur. On l'a vu avec les Sénateurs d'Ottawa, à quel point avec les Sénateurs de Belleville, il y a une belle symbiose. Il faudrait que le Canadien soit capable de ramener ça avec le Rocket de Laval.
Rapidement, chacun, qu'est-ce que vous surveillez d'autre à part le dernier match du Canadien demain soir?
Bien, c'est Noël au printemps pour les amateurs de hockey avec le début des séries. Tu as parlé de Jonathan Huberdeau. Moi, c'est lui que je surveille en série avec les Panthers de la Floride.
Les Raptors, ce soir, pourraient peut-être éventuellement faire un exploit de revenir de cette série. Ils tiraient de l'arrière 0-3. C'est 3-2 dans la série. Pourraient égaler la série et forcer la tenue d'un septième match contre les 76ers de Philadelphie.
Ça sera fort intéressant. Merci à vous deux d'avoir été là.
Merci.
On se revoit bientôt. L'obligation de porter le masque dans les lieux publics de la province devrait être suspendue au Québec à partir de la mi-mai. Je dis « devrait » parce que le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, s'est gardé de le confirmer avec certitude aujourd'hui. Une décision finale sera annoncée plus tôt la semaine prochaine. Alors, on va tenter d'y voir plus clair avec le principal intéressé. Le Dr Boileau est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir, Madame Mercier.
Mon Dieu, vous êtes en voiture, hein? C'est ce qui se passe.
Je ne conduis pas, donc soyez rassurés.
Il n'y a pas de souci. Donc, vous dites que vous allez prendre une décision finale lundi, la communiquer au gouvernement. Là, on est jeudi 17h30. Qu'est-ce qui va se passer entre ce soir et lundi de spécial ou de plus qui va vous permettre de prendre la décision finale?
Je vous dirais que selon moi, il ne se passera pas grand-chose de plus parce qu'en ce moment, on a vraiment des indicateurs qui vont dans le bon sens. Encore aujourd'hui, on regarde les nouveaux cas qui sont présentés dans les hôpitaux, que ce soit par l'urgence ou qui ont été transférés. Et on est toujours dans cette progression qui va dans le sens de ce que l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux nous projette. Donc, on devrait aller vers une diminution des cas. D'abord, on en a moins dans la communauté, on le voit, mais les cas en milieu hospitalier devraient aller aussi en diminuant. Alors, on n'est pas trop inquiet, mais on va attendre quand même de voir si l'effet de Pâques et les autres effets, des fois, qui peuvent se modifier. On a déjà vu ça, des variations sur une courbe comme ça. On est plus sur un plateau qui veut pencher. On a l'impression que ça va pencher bien. Dès lundi, là, c'est-à-dire pour lundi, puis okay. qu'on va être capable de recommander ce que vous entendez au gouvernement.
Bon, parfait. Là, dans votre conférence de presse, vous citiez les données du Cyrano qui montrent que dans la dernière semaine, il y a encore eu 40 000 cas par jour, en tout cas selon les estimations. Oui. On a reçu tout à l'heure en entrevue une des chercheuses du Cyrano, Roxane Borges da Silva, qu'elle, elle nous dit, tant qu'on n'a pas une courbe vraiment descendante, là, qui descend de manière abrupte dans le nombre de cas, il est trop tôt pour enlever le masque. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à la même conclusion?
Madame Borges da Silva est bien au fait des résultats de l'étude qu'elle mène avec les autres de l'équipe Cyrano. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus de voir s'il y aura une pente descendante et à quel niveau va-t-elle descendre. Et c'est ce que nous croyons. Nous croyons que nous sommes actuellement sur un... En fait, on est sur une pente descendante, mais plus lente, hein, parce que ça ne descend pas aussi vite qu'à l'occasion de la cinquième vague, mais ça va descendre. Une fois que c'est parti pour descendre, on pense qu'avec les habitudes de vie qui ont été prises, la compréhension des gens sur les comportements à avoir, en particulier sur le fait de s'isoler lorsqu'on a des symptômes, de ne pas contacter ça, de ne pas le donner à d'autres, bien sûr, ça ne fonctionne pas à 100 %. Vous le voyez, il y a des dizaines de milliers de cas par jour. Alors, mais on pense que ça s'inscrit de plus en plus dans les mœurs. C'est que d'ici à peu près 2 semaines, on devrait être dans une zone de confort pour passer à une autre étape. Et je pense que il ne serait pas étonnant que nous voyions un plateau s'allonger un peu plus dans le temps avec cette vague-ci, mais en même temps, ça nous surprendrait que ça n'aille pas en diminuant, comme je le mentionnais.
Est-ce que vous avez l'intention d'accélérer l'administration de la quatrième dose, maintenant qu'on sait que les réinfections sont plus fréquentes qu'on croyait et surviennent dans des intervalles plus rapprochés qu'on pensait?
En fait, une réinfection, ça vient lorsque quelqu'un a une infection par un variant et qu'il se fait réinfecter par un autre variant. Alors, on n'a pas de... Par exemple, si quelqu'un a fait le BA2 là, récemment, il ne devrait pas refaire l'infection avec le BA2 dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
Mais donc, sur la quatrième dose, il nous reste très peu de temps?
Bien, non, on n'accélérera pas la quatrième dose pour autant. Les gens peuvent se faire vacciner, surtout si ça fait 5 mois qu'ils ont eu leur dernière dose. Ils peuvent au moins y aller si ça fait 3 mois. On ne l'accélérera pas pour autant parce que c'est des sujets différents. La vaccination D'accord. est excellente, profitons-en.
Parfait.
Mais il ne faut pas courir non plus après la quatrième.
Merci beaucoup, Dr Boileau, d'avoir été avec nous.
Merci et bonne journée. Merci.
L'auteur des attaques au sabre dans le Vieux-Québec à l'Halloween 2020 a poursuivi son témoignage aujourd'hui au Palais de justice de Québec. La Couronne a continué de contre-interroger l'accusé, Carl Girouard. Laurence Royer suit le procès pour nous. Bonsoir, Laurence.
Bonsoir, Noémie.
Les avocats de la poursuite ont obtenu très peu de réponses à leurs questions.
Oui, surtout concernant la soirée des attaques. Carl Girouard n'a pas répondu à pratiquement à la majorité des questions des avocats de la Couronne à ce sujet parce qu'il disait qu'il n'était pas capable de se souvenir de ce qui s'est passé ce soir-là. Il répétait souvent que c'était très difficile pour lui de se remettre dans la tête du Carl de la mission. Parce que depuis le début de son témoignage, Carl Girouard prétend qu'il y a 2 Carl, donc un bon Carl et un mauvais Carl, le Carl de la mission, et que c'est ce mauvais Carl-là qui a commis les attaques le soir de l'Halloween 2020. Donc, il a expliqué que depuis des années, il y a un combat entre ces 2 Carl. Il dit avoir fait tout en son possible pour tenter de vaincre ce mauvais Carl le soir des attaques, mais que c'est ce mauvais Carl qui a gagné. Par contre, Carl Girouard a admis qu'il savait que ce qu'il faisait, c'était illégal, mais sa mission était plus importante que tout. Il croyait faire le bien, croyait pouvoir faire un monde meilleur. Là aussi, il a admis que son geste était prémédité, que ça faisait des années qu'il y pensait, des mois qu'il se préparait, notamment en commandant des costumes, un katana aussi. Mais il remettait toujours la faute sur ce mauvais cadre. Donc, le contre-interrogatoire s'est terminé aujourd'hui. Ça a duré plusieurs heures. La couronne a tenté de soulever des contradictions dans son discours. Ils sont également revenus sur plusieurs éléments de preuve pour tenter de prouver que Carl Giroir était en mesure de faire la différence entre le bien et le mal ce soir-là, parce que c'est vraiment ça qui est au cœur de cette affaire.
Et la défense, cette fois, a appelé à témoigner une personne qui côtoie Carl Giroir en détention.
Oui, c'est la directrice des services professionnels à l'établissement où Carl Giroir est détenu depuis les événements. Elle est venue faire état du comportement de Carl Giroir depuis qu'il est en prison. Elle a dit qu'au début, il était très anxieux, méfiant, mais qu'il allait de mieux en mieux. Et aujourd'hui, bien, il travaille, il accompagne de nouveaux détenus, n'a pas de problème de discipline non plus. Donc, la défense doit continuer de présenter sa preuve demain. C'est un psychiatre qui sera appelé à témoigner.
Merci beaucoup, Laurence.
Bonne soirée.
C'est un projet unique, une ancienne piquerie d'Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, transformée en maison de chambre. Le projet d'habitation du 3629 rue Sainte-Catherine-Est a été conçu pour répondre aux besoins des exclus du logement social. 4 mois après son ouverture, Louis-Philippe Bourdeau a eu un accès exclusif au lieu. Il est allé à la rencontre d'un résident et des intervenants.
Il y a un an, en avril 2021, notre équipe rencontrait Julien Montreuil de l'organisme L'Anonyme.
Avoir une chambre, c'est si tu payes ton loyer, tu gardes ça salubre, puis tu t'arranges pour respecter tes voisins. À ce moment-là, tu respectes les règles.
On lui avait parlé à même le chantier de ce qui était une ancienne piquerie et qui allait devenir la maison de chambre du 3629 rue Sainte-Catherine-Est. Un projet adapté à une clientèle vulnérable qui n'est pas en mesure de se qualifier pour du logement social traditionnel. 4 mois après l'ouverture, Julien et un des résidents, François, ont accepté de nous rencontrer pour faire un premier bilan du projet.
3629, pour moi, ça a été une chance de m'installer quelque part, puis sans subir la stigmatisation de mes voisins. Mon mode de vie ici n'est pas jugé. Je peux continuer mes traitements sans avoir à me cacher. On est capable de s'entraider.
Au premier, il y a 4 logements, mais au chacun des autres étages, il y a 5 logements parce qu'il y a une chambre double qui se rajoute. Moins tu as de chances d'avoir un logement dans ce qui est offert autre qu'ici, plus tu as de chances de venir ici. L'objectif principal, c'était de loger 16 personnes qui, autrement, auraient de la difficulté à se loger. Et ça, c'est cet objectif-là, qui est l'objectif premier, est accompli.
Est-ce que tu vois déjà une différence dans leur qualité de vie, leur attitude, leur santé? D'habiter ici?
Pour beaucoup de personnes, c'est un endroit qui est plus stable. Ces personnes-là ont un toit sur la tête. Donc, au niveau des déterminants de la santé, on s'entend que c'est majeur.
On a un endroit pour nos soins. Ça m'intéresse pour les gens de l'extérieur. S'il y a maintenant quelqu'un qui rentre pour s'injecter. Ça, c'est des injecteurs nasaux.
Le fait de savoir que c'est géré par le communautaire, est-ce que ça change aussi quelque chose pour toi?
Un propriétaire montréalais de logement donne pas autant de chances que nous, on peut se faire donner ici. En plus d'être avec des voisins hors pair, je me sens en sécurité.
Même avant l'arrivée des premiers locataires, l'équipe de l'Anonyme doutait bien qu'il allait avoir des obstacles et des ajustements à faire.
On s'attendait à ce qu'il y ait des enjeux. On parle de consommation de substances, on parle de respect des lieux. Les enjeux qu'on vit en ce moment, je dirais qu'ils sont moins grands que ce à quoi je m'attendais.
On règle nos problèmes dans la discussion. Ça se passe bien, tu sais.
Le fait qu'il y ait de la consommation à l'intérieur et que les gens associent ça tout de suite à cette étiquette qui était d'une piquerie, ça te fait quoi de voir ça ou de lire ça?
Juste pour être clair, nous, on n'a jamais dit on n'autorise pas la consommation, on n'est pas là-dedans. Je suis pas là pour dépeindre un portrait idéaliste, mais pas non plus un portrait qui est faux de la situation. Tout ce que ça fait, ça contribue à stigmatiser davantage les personnes qui habitent ici. Il n'y a pas eu de plainte en lien avec le voisinage. Test important, ça va être le test avec le voisinage, justement, arrivé à l'été. Puis nous, on va tout mettre en œuvre, autant à l'interne qu'à l'externe, pour s'assurer que ça se passe bien avec tous les partenaires du quartier.
Bien, ça se passe comment avec le voisinage jusqu'à date depuis que tu es arrivé?
La curiosité des voisins est vraiment intéressante.
De manière positive?
Oui.
OK.
On est tous arrivés à peu près en même temps dans un projet. On apprend ensemble à c'est quoi ce projet-là, ses possibilités puis ses limites.
On est un peu le laboratoire de ce que peut devenir des logements sociaux de ce type
là, qui donne pour vrai un méchant gros coup de main.
Tout un honneur pour Ginette Renault. Elle a reçu la plus haute distinction de la France. On vous présente notre rencontre avec la chanteuse au retour.
Nous vous faisons Ginette Renault, chevalière de la Légion d'honneur.
Merci beaucoup.
La grande chanteuse Ginette Renault a reçu aujourd'hui la Légion d'honneur. C'est la plus haute distinction honorifique de la France. Et en plus, c'est le jour de son anniversaire. La médaille lui a été remise par la consule de France à Montréal, Sophie Lagoutte. La récompense honore la contribution de Ginette Renault à la culture francophone, mais aussi les ponts qu'elle a bâtis entre le Québec et la France. Étienne Fortin-Gauthier l'a rencontrée.
Action! Entrevue avec Étienne et Ginette.
Ginette, c'est toute une journée aujourd'hui, quand
c'est
même.
C'est la plus belle journée de ma vie.
C'est votre anniversaire?
Oui, en plus, imaginez-vous.
Votre anniversaire, puis la Légion d'honneur.
En plus, la chevalerie, la chevalerie de la Légion d'honneur.
Vous devenez une chevalière, vous devenez une cavalière. Quel titre qu'on devrait vous donner, justement, à partir de maintenant?
Ginette Renault, ça va être quand même. Ça va déjà être assez. C'est déjà beaucoup.
Vous restez humble, quand même.
J'ai travaillé fort là-dessus, moi, ici.
Ouais.
Sur mon humilité, j'ai travaillé fort. Je pense qu'à un moment donné, j'avais le nombril ici. Mais j'ai failli le remettre par où ce qu'il faut.
Mais aujourd'hui, d'être reconnu là, par la France.
Ben, c'est quelque chose.
Ça vous touche.
C'est une belle fierté, c'est gratifiant. C'est quand même formidable. Je dis merci du fond du cœur.
Mais dans les derniers mois, évidemment, vous avez été malade l'automne dernier. Est-ce que ça a tout remis un peu en question?
Ça remet tout en question. C'est des lâcher prises, ne plus avoir d'attente, en avoir de moins possible. Parce que je suis indépendante, j'ai toujours aimé beaucoup la nourriture. Je dois me détacher énormément de la nourriture, comme un alcoolique doit se détacher de son alcool.
Depuis l'automne, vous vous sentez mieux?
Je ne sais pas au niveau de la santé, parce que je fais beaucoup de tests en ce moment, on me passe beaucoup d'examens. Je suis souvent un jour à l'hôpital, on vérifie. On est en train de tout vérifier mon corps.
Mais on a des rappels réguliers qu'il faut profiter de la vie. La semaine dernière, Guy Lafleur, que vous connaissez bien, vous étiez proche de lui. Et puis là, vous aimeriez chanter pour lui, peut-être.
On va voir,
Si la famille le veut, vous aimeriez lui rendre cet hommage-là.
Oui.
Et puis, parce que le Canadien, quand j'ai parlé à mes jeunes collègues et j'avais dit que je venais vous voir, eux, pour eux, c'est vos prestations au Canadien.
Oui, mais c'est ça, c'est ça. Moi, la chose la plus touchante que j'ai vue, à un moment donné, je suis dans un restaurant, et puis il y a un petit garçon de 4 ans. Sa maman vient me voir, elle me dit, est-ce que ça vous dérangerait de chanter le Canada avec lui? Je suis donc avec grand plaisir. Étienne, vous auriez dû nous voir. Le petit garçon chantait avec tellement de fierté. 4 ans, il savait par cœur. Oh, Canada! C'est tellement beau! Tout le monde dans le salon pleurait, on pleurait de joie. C'était vraiment touchant. Et je me suis dit, j'ai comme touché une autre génération.
Moi, ma chanson préférée, c'est Des croissants
de soleil. C'est une chanson cochonne.
Ah oui, c'est une chanson cochonne.
C'est pas ça. Ça dit des petites affaires.
Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner à la saveur de miel et de rosée sur un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. Oui, c'est Grivois.
Ok, ça n'avait pas vu comme ça.
Non, c'est comme ça.
Mais et aujourd'hui, Ginette Renault touche toutes les générations de Québécois. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est pour ça que vous la méritez, votre Légion.
Je suis content, je suis très content.
Oui. Ginette Renault, merci beaucoup.
Étienne, je vous remercie de m'avoir reçu. Vous avez des yeux magnifiques.
Bonsoir, Michel.
Bonsoir, Noémie.
Alors, le gouvernement Legault, aujourd'hui, a présenté un nouveau plan de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.
Oui, en fait, c'est un plan qu'on met à jour régulièrement. Puis là, on y ajoute 1 milliard de dollars. Alors, total de l'investissement, 7,6 milliards de dollars. Je disais, c'est un dollar de plus que prévu pour ce qu'on appelle le plan pour une économie verte 2030. La plus grosse part du budget va être consacrée à la réduction de l'empreinte carbone du transport. Le Québec a désormais défini et financé 51% des gestes à poser pour atteindre la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Ça, c'est ce que dit le communiqué. Fait qu'il reste quand même la moitié des mesures à déterminer pour atteindre 100% de l'objectif. Fait qu'il en manque quand même un gros morceau.
Oui, il reste du chemin à faire.
Ouais.
Et ce soir, au fil 22 heures, tu reçois le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.
Exactement. Donc, il sera avec nous. On va revenir, bien sûr, sur l'étude sur les journalistes et animateurs qui sont victimes d'intimidation, de harcèlement en ligne également. On va revenir là-dessus, bien sûr, avec le président de la FPJQ. Et on va parler du masque à la mi-mai avec notre collaborateur, le Dr Alain Vadeboncœur.
Bon, bien, peut-être qu'il aura compris quelque chose du message du Dr Boileau.
On va vérifier.
Merci. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve demain à 17 h.